messieurs, merci d'avoir répondu à l'invitation de Nadia, qui cette année encore n'a pas oublié où se suisant, puisque la première année c'était des aléas climatiques qui avaient empêché de nous amener cette boxe sur le territoire de se suisant. Mais bon, l'année dernière, vous avez pu l'admirer, et puis cette année, on est reparti pour 2 mois, c'est ça, à peu près ?
À peu près.
Voilà, donc merci beaucoup d'avoir encore passé à vous, ce Suzanne, et puis je vais vous passer la parole, puisque c'est vous qui allez parler avec M. Provisiano de ses œuvres qui vont nous faire.
Qui vont nous offrir. Voir la lumière. Merci à tous d'être là, merci monsieur le maire de nous permettre de nous implanter encore ici, à Ouss-Suzan, nombril du monde. Je vais juste chercher quelque chose que je me suis dit quand même, mais ça vous le savez tous.
Du monde, hein, quand même.
Ah, Ouss-Suzan, oui. C'est là. Ouais. C'est la croix, le centre, voilà. Et donc, je pense que c'est assez symbolique finalement, et ça fait complètement sens si la foire d'Ouss-Suzan se passe ici, le lieu de l'assemblage, et finalement, installer Teambox ici, au cœur du village, bah, c'est ça aussi, c'est réunir des personnes à partir d'une proposition artistique, qui diffèrent tous les ans, mais on a quand même un petit fil conducteur dans nos propositions, puisqu'il y a néanmoins une certaine... Voilà, c'est quand même traversé par la question écologique d'une certaine manière. Et donc je vous présente Patrick Polidano, que je remercie énormément, voilà, parce qu'il a accepté de présenter son travail pour l'été dans la Teambox. Patrick connaît très 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 bien le territoire, puisqu'il... Bon, parce que pendant 3 ans déjà, il a sillonné et il a fait un inventaire de toutes les fontaines et sources guérisseuses du territoire. Et il a réalisé des photographies qui donnent lieu à une exposition. Nous aurions pu choisir les photographies, mais on a décidé de choisir autre chose. Et une édition, voilà. Donc il a un amour en fait pour le territoire des Landes. Et dans le choix des artistes ici pour ce projet à Ouss-Suzan, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. Quel est le lien entre le travail des artistes et le territoire, et en même temps, comment un artiste qui n'est peut-être pas des Landes peut aussi apporter un regard distancié, décalé sur le territoire, mais aussi sur le lien entre un territoire, un point, sur une carte, et puis peut-être une dimension plus planétaire qui nous réunit tous. Voilà. Donc Patrick, merci beaucoup. Je vais te laisser la parole. Je vais te laisser peut-être présenter un petit peu ton parcours et nous présenter les 3 pièces qui forment un ensemble, voilà. Hein, parce que c'est vraiment une installation. Voilà. Alors, merci beaucoup.
Merci de m'accueillir. Alors moi, comme vient de le préciser Nadia, je suis très sensible à ce territoire que beaucoup de gens qui passent sur les voies rapides disent plat. Et c'est vrai qu'en pénétrant dans ce territoire, petit à petit, je me suis rendu compte à quel point il ne l'était pas. Et donc du coup, lors d'une résidence, on m'avait invité à proposer un projet pour les Landes, et j'ai proposé un projet lié aux fontaines, parce qu'en faisant un autre projet, je m'étais rendu compte que les Landes étaient, en tout cas ce territoire, était très fourni en sources guérisseuses christianisées, hein, bien sûr. Donc c'est quand même 10% du territoire français, c'est ici, hein, les fontaines. Donc c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Donc du coup, voilà, en arpentant ce territoire qui est très varié au niveau de son aspect géographique, hein, qu'on soit dans le nord ou dans le sud, on n'a pas le même aspect, c'est étonnant. Et c'est vrai que j'ai été fasciné dans un premier temps par ces fontaines, parce que elles sont dans des lieux assez atypiques, souvent perdus, Et du coup, je trouvais ça très beau, tous les ex-voto que l'on trouve. Je me souviens de photos de chats, d'oiseaux, de gens. On trouve des moments, on arpente la forêt sauvage et tout d'un coup, on tombe sur une clairière magnifique, entretenue. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient de tomber. Enfin, c'est assez bluffant, quoi. Mais on y voit rarement des gens. Il y a une espèce de respect par rapport à ça. Et c'est ce qui m'avait fasciné dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on est souvent seul, hein, dans un moment de recueillement, de réflexion. Bon, et puis, surtout, ce qui m'a amené à ça, c'est que l'eau, c'est un élément fondateur. On sait tous que l'eau est indispensable et qu'on est très, très vite perdu sans eau. Hein, 3 jours à peu près de vie pour un humain sans eau. Je ne parle pas des plantes, etc.
Donc, le corps humain est fait de 70%.
Alors en plus, j'allume. Voilà, donc du coup, tout ça fait que déjà l'élément eau, c'est quelque chose chez moi qui est très présent. Et puis, le fait aussi que l'eau charrie tout un tas d'éléments, des minéraux. Bon, ce qui est fascinant aussi, c'est que le réseau hydrique souterrain est immense. On ne le connaît pas d'ailleurs. Voilà, on n'a que les résurgences des fontaines, qu'on dit qu'ils se déplacent dans la lande, hein, si on les insulte ou si on n'est pas correct avec elles. Donc, il y a un côté un peu de magie derrière tout ça. Mais il y a surtout un réseau souterrain, invisible, qui forme une espèce de cartographie, comme un réseau sanguin un peu, hein, une espèce de truc qui nous nourrit. Donc, c'est vrai que toute cette réflexion sur l'eau, sur les bienfaits, sur le fait qu'elle transporte des éléments vitaux, on fait que depuis la nuit des temps, il y a eu très peu de fouilles sur ces lieux. Mais on y trouve des pièces au moins datant du Moyen-Âge. Donc on sait que toutes les premières peuplades et tout se sont installées à proximité de ces lieux-là. Alors on n'a plus leur habitat parce que c'est un habitat sûrement en bois, en terre, donc il est détruit, mais on a des traces de leur passage. Notamment à Saint-Clair. À Igos, on a quand même découvert des haches. Alors moi je disais en bronze, mais tu m'as appris qu'elles étaient en cuivre pur. Tu vois, j'avais lu qu'elles étaient en bronze, datant de 5 à 8 000 ans. Donc c'est pas rien, quoi, hein, sur l'histoire humaine. Donc du coup, ça veut dire que depuis la nuit des temps, au-delà des assemblades et de tout ce que lié au chemin de Compostelle, je rappelle que quand même l'Église a tenté d'arrêter pendant des siècles, a tenté d'arrêter ces assemblades, ces réunions de gens, parce que derrière tout ça, il y a à la fois des cultes, bon, il y a le culte religieux, mais il y a aussi des cultes païens, qu'on appelle de magie imitative. Alors c'est je verse de l'eau par terre et il va pleuvoir, c'est ça la magie imitative. Hein. Ce sont des cultes païens un peu où on se dit, tiens, si je fais ça, il va se passer ça. Donc l'Église ne supportait pas ça. Donc pendant des années, on a essayé de les arrêter. Pour d'autres raisons aussi, c'est que ces assemblages, vous en doutez, les gens arrivaient plusieurs jours avant. Ils s'installaient autour de l'Église pour se soigner, bien évidemment. Hein, voilà. Mais après, il y avait des fois au moins une semaine, hein, de commerce et tout ça. Et après, il y avait des fêtes monstrueuses. Donc, ou bien sûr, les gens se battaient parce qu'ils étaient alcoolisés, voilà. Et donc, forcément, ça faisait tâche un peu au niveau de l'Église. Donc, ils ont essayé de les arrêter, mais le culte a perduré, les gens ont pris dessus. Finalement, l'Église a fermé un peu les yeux, mais n'a pas interdit le fait qu'elle soit dédiée à des saints. Voilà, donc toutes les fontaines grecques sont dédiées à des saints bien précis. Voilà. Alors, bien sûr, ici, quand Nadia m'a invité, forcément, j'aurais pu faire une proposition liée à ça. Mais je trouvais ça un peu littéral, donc du coup, quand elle m'a contacté pour ça et qu'elle avait vu ce travail que j'ai montré sous une autre forme ailleurs, je me suis dit, ça peut être intéressant, effectivement, de montrer quelque chose qui est plus actuel et surtout qui fait le lien avec quelque chose. Parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur la tempête Klaus, et sur les feux de forêt qu'on a eu en 2022 dans tout le coin du sud-ouest, l'Ambiras. Donc là, il y a des pièces, il y a une série de pièces que j'ai réalisées en 2023, accompagnées des pompiers, bien sûr, qui m'ont autorisé à aller sur le territoire, où j'ai fait des photos des troncs qui ont été vitrifiés par la température, c'est-à-dire qu'ils ont été brûlés en surface, hein, et ils sont devenus gris métallique. Donc j'ai fait une série de photographies qui s'appelle Landiras d'ailleurs, du nom du village où j'ai fait ces photos. Et comme je suis un artiste qui s'intéresse beaucoup à la matière et que je ne suis pas un photographe proprement dit, certaines personnes tout à l'heure me l'ont dit, l'ont ressenti, ce sont des tirages en relief. C'est-à-dire que l'image que vous voyez là n'est pas une image photographique, c'est un procédé un peu particulier où il y a un pelliculage, alors c'est fait par une entreprise bien évidemment, et il y a un petit relief de 2-3 mm comme le serait une écorce d'arbre d'ailleurs, hein, parce que je tiens absolument à ce qui est sur l'œil est très précis, donc on ressent, hein, c'est vous qui me l'avez dit ça tout à l'heure, non c'est pas vous sur le relief, on en a parlé. Non. Qui c'est qui m'a dit ça tout à l'heure? Mais c'est un relief qui m'a posé la question.
C'est Marie-Hélène.
Il y a une autre personne qui m'a dit tout à l'heure. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'on ressent les choses à tel point que quelqu'un qui regarde ça et qui se questionne me demande est-ce que c'est un relief? Oui, c'est un relief, mais c'est très léger. C'est juste pour qu'on ait ce doute. Bon, et c'est vrai que ce qui m'intéressait là-dedans, c'est le fait que tout d'un coup, l'arbre devient comme de l'acier, quoi. Il y a quelque chose de très étrange là-dedans. Il reste quelques couleurs orangées de l'écorce, mais l'ensemble est gris, comme s'il avait été absolument cendré, entièrement cendré. Donc ça m'intéressait aussi dans son aspect, parce que je trouve que c'est la matière bascule dans autre chose. Et puis, il y a ce travail, cette phrase, « Ce qui apporte la lumière doit supporter la brûlure ». Donc là, vraiment, c'est une réflexion. Moi, je suis quelqu'un qui... depuis l'enfance, s'intéresse à la cosmologie, aux étoiles, si vous voulez, je suis étonné qu'on soit sur une sphère, voilà, qui se balade dans l'espace à 24 000 km/h, qu'on n'en ait pas la sensation, qu'on soit protégé, qu'on soit protégé par une toute petite bande d'ozone. Finalement, on est très fragile. Sans cette bande, bon, on aurait tous des cancers, hein, avec le soleil. On n'a pas conscience de l'univers dans lequel on vit. Donc j'ai toujours été passionné par la cosmologie. Et forcément, cette phrase, ce qui apporte la lumière doit supporter la brûlure, forcément, ça fait référence à l'astre qui nous amène la lumière et qui nous amène aussi la chaleur. Hein. Voilà, les saisons, c'est ce qui fait que la vie existe. Voilà, sans eau, sans soleil, il n'y a rien. Donc, il y a une référence, bien sûr, à ça. Et puis, il y a le choix du matériau. Alors, le choix du matériau, il est très important pour moi. Je vous avoue que c'est quelque chose auquel j'ai énormément réfléchi, parce que je suis passé par plusieurs étapes. Et surtout, je ne voulais pas que ce soit simplement de l'écriture. Ça m'ennuyait que ce soit simplement... on a vu dans l'art plein d'artistes qui ont écrit... C'est tellement commun que ça en est lassant. Donc je ne pouvais pas m'accommoder de ça. Et je cherchais surtout un matériau qui soit comme de la lumière. Et depuis des années, j'avais sur ma table, compressé, parce que ça c'est très important, j'ai fait des sculptures en cendre que je compresse. Vous pouvez aller voir mon site, hein, polydano.fr, vous regardez, vous verrez, il y a des compressions de cendre, je sculpte avec des matériaux un peu improbables, quoi. Et j'avais, depuis 2017, sur ma table, des bouteilles en plastique, alors pas n'importe quelle bouteille, hein, les bouteilles d'abatis, parce que je suis de la région bordelaise, et abatis, la source de Sainte-Anne, qui est extraordinaire, c'est quand même le puits, c'est un puits artésien, donc c'est un forage profond, et c'est le plus profond de France. Hein, presque 500 mètres de profondeur. Donc c'est une eau préhistorique, très ancienne, que l'on prélève, bien avant la vie sur Terre, bien avant la création du pétrole aussi. Hein. Donc ça m'intéressait d'utiliser ce matériau que j'avais compressé sur ma table sans savoir trop ce que j'allais en faire. Et surtout, je l'avais compressé parce que c'était le seul moyen de le rendre un peu plat, parce que le plastique thermoformé en usine, vous avez beau le découper et tout, il reste curve, hein. Il reste comme une bouteille. On peut l'ouvrir comme ça, mais il ne reste pas comme ça. Hein, c'est thermoformé à 400 degrés. Donc une fois que la forme est prise, vous ne pouvez pas la remettre. Et pour le seul moyen de la remettre à plat, c'est de la presser pendant très longtemps. Donc ça, ça m'a permis d'amener l'écriture à quelque chose qui est fluide, qui est comme de la lumière ou de l'eau. Voilà. Et surtout d'interroger sur cette chose où on conserve de l'eau très pure dans un matériau pétrolier par excellence et qui surtout aujourd'hui se retrouve dans toute la chaîne alimentaire. Parce que le plastique aujourd'hui c'est un vrai problème important. Ça va bien au-delà de ce qu'on imagine.
Dans toutes les cellules humaines, il y a des traces de
plastique. Ah mais partout. Il paraît qu'on bouffe une carte bleue par,
par mois.
Il y a une, je lisais un truc l'autre jour sur ça. Il paraît qu'on a, on mange à peu près une carte bleue. Je ne sais pas combien de mois. Enfin, ça, c'est effrayant. Quoi. Alors, il y a tous les microplastiques et tout ça se délite et transporté par les rivières. Ça repart à l'océan, ça revient. Ça, voilà, il y en a dans l'air. En fait, de toute façon, on peut rien faire contre ça puisque toute notre industrie est pétrolière. Donc, forcément. C'est super les gens qui ramassent des trucs sur les plages et tout, mais bon, ça n'a aucun impact, c'est pas possible.
Façon, on ne peut pas. C'est pas peine de continuer.
On arrête tout.
On arrête tout. Il faut continuer.
Par rapport aux tempêtes, j'ai appelé ça l'esthétique de la désolation. Voilà.
Je sais.
Volontairement, je parle d'une esthétique et j'appelle ça l'esthétique de la désolation. Parce que c'est quand même une fois mise en œuvre. Un geste artistique, pour moi, c'est beau, la beauté revient, mais pourtant, c'est la mort. Hein, ces arbres, ils sont morts, là. Voilà, c'est des arbres. En plus, c'était des grumes qui devaient avoir, dans mon avis, bien 200 ans, quoi. C'était des trucs comme ça, magnifiques. Quand on voit ces arbres comme ça, entièrement brûlés, hein, vitrifiés, je dis, température moyenne du feu 600 degrés, 600 à 1000 degrés, imaginez un peu le truc. Donc c'est aussi des choses qui sont liées, comme la tempête, quand j'ai travaillé sur la tempête Klaus et tout le travail que j'ai fait derrière ça. J'ai travaillé sur une esthétique, mais qui est une esthétique de la désolation. Moi j'appelle ça comme ça parce que vraiment on montre la mort, on montre la disparition de quelque chose. Ces arbres dans les Landes, il n'y en a plus beaucoup des arbres anciens comme ça, même quasiment plus. Voilà, donc du coup il y avait cet élément aussi qui était important. Et puis il y a la sphère, cet élément, on va dire, la lumière est concentrée. Et alors, le dernier élément dans la tinbox, c'est cette sphère en inox, là. Alors,
Globo,
qui s'appelle Globo.
Bonjour, Globo.
Global ou Globe, voilà. Et c'est un point de convergence, c'est-à-dire que ça vient concentrer l'ensemble de l'espace, du contenu de la toolbox, mais aussi du village, parce que si vous regardez, vous allez voir que vous voyez tout, hein, les panneaux, la maison, l'église, les voitures, tout y est dedans, hein. Si on regarde bien, ça prend à grande distance. Donc c'est un élément de convergence, un peu comme un œil, hein. Ça vient focaliser la lumière et le reflet dans cet espace, à la fois le contenu de mon travail, mais aussi la personne qui passe, il y a du mouvement devant, voilà, c'était très important pour moi. Donc il y a un travail sur quelque chose qui vient concentrer l'ensemble de ce qui entoure ce lieu et du contenu de ce lieu. Voilà, ça c'était très important. Donc c'est pour ça que Nadia l'a précisé tout à l'heure, c'est pas des œuvres posées comme ça, voilà, alors là j'ai mis ça, là j'ai mis ci, j'ai mis ça. C'est vraiment, enfin en tout cas ça a été réfléchi comme un élément global, quoi, total, c'est-à-dire que même la position des éléments est très réfléchie. Voilà. Donc la phrase, c'est l'élément fondateur, hein, c'est l'élément vraiment premier de cette exposition. Vous avez vu qu'elle est sur un fond bleu sulfate de cuivre. C'est un matériau que j'ai beaucoup utilisé, moi, justement en compression aussi, en sculpture, qui amène un peu ce côté aquatique, mais c'est surtout qui venait aider à la lecture, parce que dans la tin box, il se produit quelque chose de particulier, c'est que les vitres apportent le reflet. Et donc du coup, elles viennent perturber la lecture. Donc à la base, c'est quelque chose que je montre sur fond blanc, moi, et ça fonctionne très bien, c'est tout à fait lisible. Mais là, ça n'était plus lisible. Donc il a fallu que je recherche un fond
Hein, quelque chose qui vienne redonner de la lisibilité à cette phrase. Ça, c'était important. Et donc, j'ai choisi ce bleu parce que c'est un bleu que j'ai beaucoup utilisé dans mon travail, cette couleur. Alors, le bleu sulfate, comme ça, c'est mélangé à de la chaux, hein, et on s'en sert pour les traitements, on s'en sert pour plein de choses. Hein. Moi, c'est un matériau que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Donc, du coup, ça faisait un espèce d'élément total. Phrase a donné, une partie de la phrase a donné le titre à l'exposition. Voilà. Ce qui apporte la lumière. Bon, on en a besoin en ce moment, hein, de lumière. Hein. Voilà, on a besoin.
C'est sûr.
On a tous besoin d'avoir un peu de lumière au-delà de l'aspect de vie. On a besoin. Cette exposition, elle tombe à un moment où il y a une symbolique aussi assez forte par rapport à ce qu'on vit tous. Et du coup, je trouve que c'était intéressant de parler aussi de ça, du côté humain, quoi. Moi, je suis comme vous, hein, c'est pas parce que je suis artiste que je suis différent, hein, c'est juste que je fais un métier différent. Mais après, en tant qu'humain, je suis comme n'importe quelle personne, quoi. Donc,
tu as besoin du soleil.
Comment ?
Tu as besoin du soleil.
Oui, j'ai besoin de lumière, moi, pour vivre aussi, voilà. Et j'ai besoin de la lumière des autres aussi, donc c'est aussi ça qui fait qu'on avance, voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça a du sens, voilà.
Bon, je pense que j'ai fait le tour. Yeah, thank you.
Je pense que j'ai fait à peu près le tour.
Merci beaucoup.